Bonjour et bienvenue pour cette première émission. Elle se divisera en deux temps. Un premier temps dédié aux collégiens et un second aux lycéens. Dans chaque partie, vous trouverez une lecture offerte, un avis sur une nouveauté qui vient d'être publiée en littérature jeunesse et enfin une chronique « Un jour, une idée » pour se rendre en ligne et découvrir un moyen de s'évader, s'échapper ou encore voyager. Bonne écoute. Les fées de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât deux fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, dame, bonne mère, dit cette belle fille. » Et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche deux roses, deux perles et de gros diamants. Que vois-je? Dit sa mère tout étonnée. Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille? Ce fut là la première fois qu'elle appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donnez bien honnêtement. Il me ferait beau voir, répondit la brutale, aller à la fontaine. Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vient lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue ?» lui dit cette brutale orgueilleuse pour vous donner à boire. « Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. » « J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord, que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille, eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère, lui répondit la brutale en jetant deux vipères et deux crapauds. « Ô ciel !» s'écria la mère, « que vois-je là ?» Sa sœur qui est en cause, elle me le paiera. Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là, toute seule, et ce qu'elle avait à pleurer. Hélas, Monsieur, c'est ma mère qui m'a chassé du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux, et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à un autre, l'amena au palais du roi, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Moralité, les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Autre moralité, l'honnêteté coûte des soins. Elle veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense. Et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Et voici tout d'abord le quart d'heure dédié plus particulièrement aux collégiens.
Lecture offerte.
Avis et sélection en littérature jeunesse. Un jour, une idée pour s'échapper, s'évader ou encore se reposer. Bonjour à tous, je vous propose de découvrir chaque jour une idée pour s'échapper, s'évader ou encore se reposer. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Astérix et la Zizanie avec bruitage sur le site de France Culture. Il suffit de cliquer sur le titre en bleu au-dessus ou de taper Astérix et la Zizanie France Culture. Une heure pour se transporter dans le village des irréductibles Gaulois. Ils devront affronter Tullius Détritus, envoyé par César pour semer la discorde. Ce sera aussi un moyen de rendre hommage au dessinateur Uderzo. Vous pouvez laisser votre commentaire ci-dessous. À demain pour de nouvelles aventures. Bonjour, je vous présente aujourd'hui un manga qui se termine en 3 volumes, qui s'intitule « Les fleurs de la mer Égée » d'Akame Inoshita, paru aux éditions Komiku en 2020. Lisa, une jeune princesse de Ferrare, une ville d'Italie, ne rêve que de voyage. Sa rencontre avec Olia, qui vient de Crimée, l'amène à demander à sa famille l'autorisation de l'accompagner retrouver sa sœur. Mais toute la mer d'Égée est sous tension, avec d'un côté les pirates qui sillonnent la zone et de l'autre de multiples peuples qui ont d'autres cultures. Les deux jeunes filles, sans se ressembler, se complète et offre au lecteur un périple dans le temps, puisque le récit se déroule au XVe siècle. L'auteur alterne avec les péripéties des informations précises sur l'histoire, la géographie, mais aussi la mode ou encore la cuisine. La liberté est au centre du récit. En seulement 3 volumes, la jeune héroïne doit, dans ce premier tome, faire ses preuves pour pouvoir quitter sa ville, puis l'Italie. Il lui faut convaincre sa sœur aînée et trouver un bateau qui accepte de prendre 2 jeunes filles de la haute société. Ainsi, le lecteur découvre successivement Ferrare, Venise et la République de Raguse. Et si la guerre n'est pas loin, le ton reste résolument optimiste. Enfin, il y a dans ce manga le goût des ports et de leur activité et l'odeur de la mer. À découvrir un manga tout public. Et voici maintenant le quart d'heure dédié aux lycéens. Bonne écoute.
Lecture offerte.
Le bonheur, extrait de Contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. C'était l'heure du thé, avant l'entrée des lampes. La villa dominait la mer, le soleil disparu avait laissé le ciel tout rose de son passage, frotté de poudre d'or, et la Méditerranée, sans une ride, sans un frisson, lisse, luisante, encore sous le jour mourant, semblait une plaque de métal polie et démesurée. Au loin, sur la droite, les montagnes dentelées dessinaient leurs profils noirs sur la pourpre pâlie du couchant. On parlait de l'amour, on discutait ce vieux sujet, on redisait des choses qu'on avait dites déjà bien souvent. La mélancolie douce du crépuscule ralentissait les paroles, faisait flotter un attendrissement dans les âmes et ce mot « amour » qui revenait sans cesse, tantôt prononcé par une voix forte d'homme, tantôt dit par une voix de femme au timbre léger, paraissait emplir le petit salon, y voltiger comme un oiseau, y planer comme un esprit. Peut-on aimer plusieurs années de suite ? Oui, prétendaient les uns. Non, affirmaient les autres. On distinguait les cas, on établissait des démarcations, on citait des exemples, et tous, hommes et femmes, pleins de souvenirs surgissants et troublants qu'ils ne pouvaient citer et qui leur montaient aux lèvres, semblaient émus, parlaient de cette chose banale et souveraine, l'accord tendre et mystérieux de deux êtres, avec une émotion profonde et un intérêt ardent. Mais tout à coup, quelqu'un, ayant les yeux fixés au loin, s'écria « Oh, voyez là-bas, qu'est-ce que c'est ?» Sur la mer, au fond de l'horizon, surgissait une masse grise, énorme et confuse. Les femmes s'étaient levées et regardaient sans comprendre cette chose surprenante qu'elles n'avaient jamais vue. Quelqu'un dit « C'est la Corse. On l'aperçoit ainsi deux ou trois fois par an dans certaines conditions d'atmosphère exceptionnelles, quand l'air d'une limpidité parfaite ne la cache plus par ces brumes de vapeur d'eau qui voilent toujours les lointains. » On distinguait vaguement les crêtes, on crut reconnaître la neige des sommets, et tout le monde restait surpris, troublé, presque effrayé par cette brusque apparition d'un monde, par ce fantôme sorti de la mer. Peut-être eurent-ils de ces visions étranges ceux qui partirent, comme colons, à travers les océans inexplorés. Alors, un vieux monsieur qui n'avait pas encore parlé prononça « Tenez, j'ai connu dans cette île qui se dresse devant nous comme pour répondre elle-même à ce que nous disions et me rappeler un singulier souvenir. J'ai connu un exemple admirable d'un amour constant, d'un amour invraisemblablement heureux. Le voici. Je fis, voilà 5 ans, un voyage en Corse. Cette île sauvage est plus inconnue et plus loin de nous que l'Amérique. » Bien qu'on la voie, quelquefois, des côtes de France, comme aujourd'hui. Figurez-vous, un monde encore en chaos, une tempête de montagnes qui sépare des ravins étroits où roulent des torrents. Pas une plaine, mais d'immenses vagues de granit et de géantes ondulations de terre couvertes de maquis ou de hautes forêts de châtaigniers et de pins. C'est un sol, vierge, inculte, désert, bien que parfois on aperçoive un village, pareil à un tas de rochers, au sommet d'un mont. Point de culture, aucune industrie, aucun art. On ne rencontre jamais un morceau de bois travaillé, un bout de pierre sculpté, jamais le souvenir du enfantin ou raffiné des ancêtres pour les choses gracieuses et belles. C'est là même ce qui frappe le plus en ce superbe et dur pays. L'indifférence héréditaire pour cette recherche des formes séduisantes qu'on appelle l'art. L'Italie, où chaque palais plein de chefs-d'œuvre est un chef-d'œuvre lui-même, où le marbre, le bois, le bronze, le fer, les métaux et les pierres attestent le génie de l'homme, où les plus petits objets anciens qui traînent dans les vieilles maisons révèlent ce divin souci de la grâce, et pour nous tous, la patrie sacrée que l'on aime parce qu'elle nous montre et nous prouve l'effort, la grandeur, la puissance et le triomphe de l'intelligence créatrice. Et, en face d'elle, la Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche point son existence même ou ses querelles de famille, et il est resté avec les défauts et les qualités de race inculte, violent, haineux, sanguinaire, avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué, naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque de sympathie. Donc, depuis un mois, j'irai à travers cette île magnifique, avec la sensation que j'étais au bout du monde. Point d'auberge, point de cabaret, point de route. On gagne par des sentiers à mulets, ces hameaux accrochés au flanc des montagnes qui dominent des abîmes tortueux, d'où l'on entend monter le soir le bruit continu, la voix sourde et profonde du torrent. On frappe aux portes des maisons, on demande un abri pour la nuit et de quoi vivre jusqu'au lendemain. Et on s'assoit à l'humble table et on dort sous l'humble toit et on serre au matin la main tendue de l'hôte qui vous a conduit jusqu'aux limites du village. Or, Un soir, après 10 heures de marche, j'atteignis une petite demeure toute seule au fond d'un étroit vallon qui allait se jeter à la mer une lieue plus loin. Les deux pentes rapides de la montagne, couvertes de maquis, de rocs éboulés et de grands arbres, enfermaient comme deux sombres murailles ce ravin lamentablement triste. Autour de la chaumière, quelques vignes, un petit jardin, et plus loin, quelques grands châtaigniers, de quoi vivre enfin une fortune pour ce pays pauvre. La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre, par exception. L'homme, assis sur une chaise de paille, se leva pour me saluer, puis se rassit sans dire un mot. Sa compagne me dit « Excusez-le, il est sourd maintenant, il a 82 ans. » Elle parlait le français de France, je fus surpris. Je lui demandai « Vous n'êtes pas de Corse ?» Elle répondit « Non, nous sommes des continentaux, mais voilà 50 ans que nous habitons ici. » Une sensation d'angoisse et de peur me saisit à la pensée de ces 50 années écoulées dans ce trou sombre, si loin des villes où vivent les hommes. Un vieux berger entra et l'on se mit à manger le seul plat du dîner, une soupe épaisse où avaient cuit ensemble des pommes de terre, du lard et des choux. Lorsque le court repas fut fini, j'allais m'asseoir devant la porte, le cœur serré par la mélancolie du morne paysage, étreint par cette détresse qui prend parfois les voyageurs. En certains soirs tristes, en certains lieux désolés, il semble que tout soit prêt de finir, l'existence et l'univers. On perçoit brusquement l'affreuse misère de la vie, l'isolement de tous, le néant de tout, et la noire solitude du cœur qui se berce et se trompe lui-même par des rêves jusqu'à la mort. La vieille femme me rejoignit, et torturée par cette curiosité qui vit toujours au fond des âmes les plus résignées. « Alors, vous venez de France ? » dit-elle. « Oui, je voyage pour mon plaisir. »« Vous êtes de Paris, peut-être ? » ?»« Non, je suis de Nancy. » Il me sembla qu'une émotion extraordinaire l'agitait. Comment ai-je vu, ou plutôt senti cela ? Je n'en sais rien. Elle répéta d'une voix lente, « Vous êtes de Nancy ?» L'homme parut dans la porte, impassible comme sont les sourds. Elle reprit, « Ça ne fait rien, il n'entend pas. » Puis, au bout de quelques secondes, « Alors, vous connaissez du monde à Nancy ?»« Mais oui, presque tout le monde. » « La famille de Sainte-Alaise ? » ?»« Oui, très bien, c'était des amis de mon père. »« Comment vous appelez-vous ? » Je dis mon nom. Elle me regarda fixement, puis prononça de cette voix basse qu'éveillant les souvenirs. « Oui, oui, je me rappelle bien. Et les Brismar, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Tous sont morts. »« Ah, et les Sirmont, vous les connaissiez ? » ?»« Oui, le dernier est général. » Alors, elle dit, frémissant d'émotion, d'angoisse, de je ne sais quel sentiment confus, puissant et sacré, de je ne sais quel besoin d'avouer, de dire tout, de parler de ces choses qu'elle avait tenues jusque-là enfermées au fond de son cœur et de ces gens dont le nom bouleversait son âme. Oui, Henri de Sirmont, je le sais bien, c'est mon frère. Et je levai les yeux vers elle, effarée de surprise, et tout d'un coup le souvenir me revint. Cela avait fait jadis un gros scandale dans la noble Lorraine. Une jeune fille, belle et riche, Suzanne de Sirmont, avait été enlevée par un sous-officier de hussards du régiment que commandait son père. C'était un beau garçon, fils de paysan, mais portant bien le dolman bleu, ce soldat qui avait séduit la fille de son colonel. Elle l'avait vu, remarqué, aimé, en regardant défiler les escadrons, sans doute. Mais comment lui avait-elle parlé ? Comment avait-il pu se voir, s'entendre ? Comment avait-elle osé lui faire comprendre qu'elle l'aimait ? Cela, on ne le sut jamais. On n'avait rien deviné, rien pressenti. Un soir, comme le soldat venait de finir son temps, il disparut avec elle. On les chercha, on ne les retrouva pas. On n'en eut jamais des nouvelles et on la considérait comme morte. Et je la retrouvai ainsi dans ce sinistre vallon ? Alors je repris à mon tour. « Oui, je me rappelle bien, vous êtes mademoiselle Suzanne ?» Elle fit oui de la tête, des larmes tombées de ses yeux. Alors, me montrant de regard le vieillard immobile sur le seuil de sa masure, elle me dit « C'est lui ». Et je compris qu'elle l'aimait toujours, qu'elle le voyait encore avec ses yeux séduits. Je demandai « Avez-vous été heureuse, au moins ?» Elle répondit avec une voix qui venait du cœur « Oh oui, très heureuse, il m'a rendue très heureuse, je n'ai jamais rien regretté. » Je la contemplai, triste, surpris, émerveillée par la puissance de l'amour. Cette fille riche avait suivi cet homme, ce paysan. Elle était devenue elle-même une paysanne. Elle s'était faite à sa vie sans charme, sans luxe, sans délicatesse d'aucune sorte. Elle s'était pliée à ses habitudes simples. Et elle l'aimait encore. Elle était devenue une femme de rustre, en bonnet, en jupe de toile. Elle mangeait dans un plat de terre, sur une table de bois, assise sur une chaise de paille, une bouillie de choux et de pommes de terre au lard. Elle couchait sur une paillasse, à son côté. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté ni les parures, ni les étoffes, ni les élégances, ni la mollesse des sièges, ni la tiédeur parfumée des chambres enveloppées de tentures, ni la douceur des duvets où plongent les corps pour le repos. Elle n'avait jamais pensé à rien qu'à lui. Elle n'avait regretté. Elle n'avait jamais eu besoin que de lui. Pourvu qu'il fût là, elle ne désirait rien. Elle avait abandonné la vie toute jeune et le monde et ceux qui l'avaient élevée, aimée. Elle était venue seule avec lui en ce sauvage ravin. Et il avait été tout pour elle. Tout ce qu'on désire, tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on attend sans cesse, tout ce qu'on espère sans fin, il avait empli de bonheur son existence d'un bout à l'autre. Elle n'aurait pas pu être plus heureuse. Et toute la nuit, en écoutant le souffle rauque du vieux soldat étendu sur son grabat à côté d'elle qu'il avait suivi si loin, je pensais à cette étrange et simple aventure, à ce bonheur si complet fait de si peu. Et je partis au soleil levant, après avoir serré la main de ces deux vieux époux. Le conteur se tut. Une femme dit: c'est égal, elle avait un idéal trop facile, des besoins trop primitifs et des exigences trop simples. Ce ne pouvait être qu'une sotte. Une autre prononça d'une voix lente: qu'importe, elle fut heureuse. Et là-bas, au fond de l'horizon, la Corse s'enfonçait dans la nuit, rentrait lentement dans la mer, effaçait sa grande ombre apparue, comme pour raconter elle-même l'histoire des deux humbles amants qu'abritait son rivage. Avis et sélection en littérature jeunesse. Bonjour, je vous présente Bamba, un roman à partir de la troisième jusqu'au lycée, écrit par Anne Loyer aux éditions du Rocher en 2020. C'est l'histoire de Bamba, qui est une jeune fille qui décide de garder l'enfant qu'elle a eu suite à un coup de foudre. Bien qu'elle n'ait que 16 ans, elle choisit de s'émanciper et de partir construire sa vie ailleurs. Elle trouve un hébergement chez Paul, un ancien instituteur, qui va l'aider à se remettre en route. Très occupée entre le bébé et la nécessité de trouver un travail, Bamba perçoit son garçon comme un lien qui lui reste de sa mère trop tôt décédée et qui avait choisi, jusqu'au dernier moment, de vivre à fond tous les instants. L'amour qu'elle porte à Kylian suffira-t-il à l'aider à se construire? Il lui faudra avant tout trouver de la force et des alliés. J'ai beaucoup aimé le portrait solaire de la jeune fille et son goût pour le mouvement, la danse et la musique. Ses sentiments pour son bébé sont aussi toujours positifs et salvateurs. Sans dénier le fait qu'il peut être extrêmement difficile de s'occuper d'un nouveau-né, l'autrice dessine une relation unique et pleine de chaleur. Son avenir prend appui sur des rencontres avec des personnes qui vont savoir l'accueillir et l'aider sans jamais la juger. Il lui reste cependant tout à faire pour dessiner son propre chemin. Un livre de 195 pages à lire. Un jour, une idée pour s'échapper, s'évader ou encore se reposer. Jour 3. Bonjour à tous, voilà une nouvelle proposition. Pour ce dimanche, j'ai pensé à tous les élèves qui souhaitent commencer à aborder la philosophie. Mais comment être sensibilisé à l'art de la réflexion et du questionnement sans difficulté? France Culture propose une série d'émissions à télécharger, Philosopher avec Miyazaki. Une autre façon de voir, de comprendre, Ponyo sur la falaise, Porco Rosso, Princesse Mononoke ou encore Nausicaa, et un beau prétexte pour revoir ces films. Bonne écoute et à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, donc c'est terminé pour cette première émission que vous pouvez retrouver aux horaires dédiés à cette même adresse et nous nous retrouverons prochainement pour de nouvelles découvertes. À très bientôt.